to be or not to be cheval? Quelle est la question? La vérité, si on réfléchit 2-3 minutes, c'est peut-être la fête la plus importante du judaïsme. Bon, en même temps, c'est facile, on dit ça à chaque fête. À chaque fois qu'il y a une fête, le rabbin, il vient et il dit, ah mais toutes les fêtes, mais cette fête-là, c'est la plus importante. Non, mais en vérité, cette fête-là, c'est vraiment la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée. Comme elle n'est pas obligée, elle vient d'où? Quand la fête, elle est obligée, elle vient soit de la Torah, soit des rabbinim. Mais celle-là, elle n'est pas obligée. Alors, elle vient d'où? Les kabbalistes. Quoi, les kabbalistes nous ont obligés de faire la fête? Non, c'est pas. Donc, la fête que nous, on fait ce soir, c'est les kabbalistes qui nous ont dit de la faire? Il y a plein de choses que les kabbalistes qui font que nous, on ne fait pas. Ça vient de nous. C'est Am Israël qui a décidé de faire la fête. Bien sûr que ça va venir des Mekoubalim, on va voir. Mais le fait que d'année en année, il y ait de plus en plus de Sdarim comme ça de Tu Bishvat, c'est parce que Am Israël se réveille à Tu Bishvat. Et c'est ce qui fait de cette fête la plus importante. La plus importante, mais attention, la plus absurde. La plus absurde. Soyons clairs. En tant que juif qui a essayé de lire la Bible, bah, s'il y a bien un truc qu'on n'aurait pas dû faire, c'est faire une fête autour de la symbolique de manger des fruits. Quand on sait que tous les problèmes du monde viennent parce qu'un mec, il a mangé un fruit, c'est quand même problématique. Non, c'est pas ça? Bien sûr que c'est ça. Abotaï. On va manger plein de fruits ce soir. Et quel bracha on a l'habitude de faire à la fin, dès qu'on a fini de manger des fruits? Qu'est-ce qu'on dit comme bracha?
Ça dépend.
On commence en disant et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait rentrer en Israël? Pourquoi est-ce que tu nous as donné la terre d'Israël à nos ancêtres et à nous? Pourquoi faire? C'est quoi l'idée? Quoi, c'est ça la raison pour laquelle on est rentré en Israël? Pour manger des pommes? C'est de ça qu'on parle? Je croyais que c'était pour étudier la Torah, pour me rapprocher d'Abraham Abin ou pour me rapprocher de la Kadosh, je pense, allez, manger des pommes. Alors il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Adam Arishon, lorsqu'il arrive dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu va lui donner une mitzvah. Je précise qu'en hébreu, mitzvah, ça veut dire quoi? Commandement. Je reprécise ma question. Quand on dit commandement, ça veut dire qu'on est obligé ou qu'on n'est pas obligé? Merci, je voulais juste vérifier. Parce que dans la source numéro 1 de la feuille, de ceux qui ont la feuille, nous avons le premier commandement, le premier tzivouille donné à l'homme en tant qu'homme. Ya, perou, vous, et ça, il l'a donné déjà aux animaux. Mais la première mitzvah que Dieu va donner aux hommes, c'est Vayetzav Hashem Elohim el Adam l'emor, mikol et sagan achol tokem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. J'ai entendu il y a des mots qui sont criés. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont dit sauf. Montrez-moi, je vous ai donné la feuille pourtant, hein, pour ne pas mentir. Montrez-moi, il y a marqué sauf. Il n'y a pas marqué sauf. Il y a marqué Vayetzav Hashem Elohim El Adam Lemor Mikol Etz Agan Achol Tochel. Point. C'est la fin du verset. Dans le Roumach, il y a deux points qui marquent la fin du verset. Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire de quel arbre?
Même du bien d'un côté.
De tous. Alors, vous allez me dire, mais il y a un autre arbre. Ah, il y a un autre. Parce que moi, je vois qu'il y a un autre verset qui suit le verset que je viens de citer. C'est quoi cet autre verset? Oumet sadat tovara lotochal mimenu. Alors, Oumet, ça ne veut pas dire sauf. La Torah sait dire sauf. Routz, Av, Milvad, il y a plein de mots pour dire sauf. Mais Oumet, Sadat, ça ne veut pas dire sauf. Ça veut dire qu'on a une autre mitzvah de ne pas manger celui-là. Et là, ça nous met devant une problématique évidente. On a une mitzvah de manger de tout, et on a une mitzvah de ne pas manger celui-là. En d'autres termes, on a une mitzvah assez, et une mitzvah lota assez, qui se contredisent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qui c'est qui gagne en général dans le judaïsme entre fait quelque chose et fait pas quelque chose ? Ça va, comment ?
Pas quelque chose.
On va faire un vote à main levée. Qui dit fais pas vaut mieux. Ouais, vaut mieux ne pas faire. On ne sait jamais, sinon on va se planter. Et qui dit vaut mieux faire.
Faire.
On a plus de positifs dans la dans cette salle que de négatifs, c'est pas mal. Mais Zénachon, Albiya Alakha, je voulais amener ici dans la source numéro 3, ceux qui ont dans ma serrette Ménachon. Albiya Alakha, assez doché l'ota assez. En vérité, vous le savez tous. Vous savez tous qu'à Shabbat, on a un interdit de Shabbat de faire couler le sang. On n'a pas le droit de verser le sang à Shabbat. D'un autre côté, si jamais il y a un petit bambino qui a 8 jours le jour de Shabbat, on fait quand même couler le sang. Lama, qui a assez d'oré l'otasse. En d'autres termes, on a deux mitzvot qui se contredisent et Adam Harishon devait faire laquelle ? Assez. Il devait manger. Y compris donc de la connaissance du bien de l'autre. Donc pourquoi est-ce que tout le monde lui tombe dessus ? Alors j'ai entendu des gens qui ont dit parce qu'il y a un ordre. Il semblerait que lorsque Akadosh Baruch Hu nous présente les arbres du jardin, il y a un ordre. À savoir, d'abord on nous parle des arbres qui sont Tov le Marev et Tov le Ma'achal, bons à voir et bons à manger. Cela, comme on dit, ils ne mangent pas de pain. Après, on a un autre qui s'appelle l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le problème, c'est qu'Adam Harishon a mangé de Etzadat. Il n'a pas mangé de Etzachaim. Il aurait dû manger de Etzachaim d'abord, mais il ne l'a pas fait. Mais attendez deux secondes, ça veut dire quoi manger de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance? Mais de quoi on parle? C'est quoi manger de l'arbre de la vie? Il ressemble à quoi l'arbre de la vie? Non, mais Mouna, à quoi ressemblait l'arbre de la vie? Etzachaim, ça ressemblait à quoi? C'est ce qu'on dit. Ah, c'est un gros façon, un arbre de la vie. Etzoer, c'est un arbre qui éclaire comme ça. Etz-Coca-Cola, bien sûr. Seulement, on a appris dans la Torah, dans Michelet, on a appris dans Michelet que Etzraim hi, la machazik imba et omcha meusha. Quand est-ce qu'on dit cette phrase? Dans notre quotidien. Quand on rentre à Sefer Torah. Ce qui veut dire que Etzraim, c'est quoi? C'est la Torah. Mais c'est Etz Hadat. C'est la connaissance possible et imaginable. En d'autres termes, Kadosh Baruch Hu nous oblige de manger de Etz Hachaim et de Etz Hadat, mais avec un ordre. En d'autres termes, si je devais résumer, comme nous avait dit un jour le Rav Shapir, la faute de Adam Harishon, c'est qu'il a été à l'université avant de passer par la Yeshiva. Mais deux secondes. Prenons un cas purement théorique qui n'est pas marqué dans la Torah. Imaginons que Adam Harishon ait mangé de Etz Hachaim. C'est-à-dire qu'il ait mangé le Torah. Et qu'après, il décide de ne pas manger Etz Hadat. Un cas purement théorique qui ne peut pas arriver dans la vraie vie. Hein. Une personne qui voudrait uniquement se remplir de Torah et pas de Dat. Et pas de connaissances profanes. Ça n'existe pas, on parle de choses théoriques. Mais si jamais ça devait exister, ça serait Bessader ou pas Bessader? Non. C'est ce que le verset nous dit, qu'à propos de nous, des fois, on est Am Naval Velo Chacham. Nous dira Omkelus, mais c'est Am Naval Velo Chacham, De Kabilo Oraita Vela Chakima. On a accepté la Torah, mais on n'a pas voulu de la sagesse. C'est comme ça qu'explique le Rav Kook dans Orot HaTorah. Les amis, Adam Harishon a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant de manger l'arbre de la vie. C'est ça, Shnia. Ok, j'ai compris que c'était une erreur. Mais qu'est-ce qu'il y a poussé? Comment est-ce que cette histoire est arrivée? Pourquoi il a mangé l'arbre de la connaissance? Oui, Mouna. Ah, la Nahash. Non. Avant Nahash.
Parce qu'il dormait.
Il dormait. Chava. Ah, מה קרה שם? הוא רואה פלט היסטוריה ומלווים. יא חווה, קהילה, תדיסקית הרי לנחש, כמו קילום. אלא נחש יהודי, פורקו יש כמו שמוש רבה את עושה, את חווה אלינו רפונס אקרויאד. Attention parce que sa réponse est très forte. Dieu nous a dit de ne pas manger. Jusque-là, c'est bon. Attendez deux secondes. De ne pas manger, c'est bon. C'est vraiment ce que Dieu il a dit. Si on admet que dans l'ordre, machin, ok. Seulement, Chava rajoute quelque chose. Et il ne faut pas toucher. Alors, est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher? Comment ça s'appelle quand quelqu'un rajoute quelque chose à ce que Dieu a dit?
Voilà.
C'est une xéra. Nous sommes devant la première xéra des rabbanites. Non, pas des rabbanans, non. Des rabbanites. A xéra des rabbanites chez Chava Imen. Maintenant, pourquoi Chava a dit qu'il ne fallait pas toucher? Vous allez me dire Guéder. Pour ne pas arriver à manger. Elle aurait pu faire plein de choses. Elle aurait pu nous dire, non, on n'a pas le droit de manger. Et Dieu nous a dit, on n'a pas le droit de s'approcher à un kilomètre de diamètre de l'arbre. Pourquoi a-t-elle dit qu'il ne fallait pas...
C'est Adam qui lui a dit.
Pas parfaitement entendre, parce qu'elle avait peur.
Elle avait peur qu'Adam, le créateur, se tombe dedans.
Et que quoi? Et qu'il mange?
Oui.
D'accord, non mais... C'est pas ma question. Je ne pose pas la question. Pourquoi elle a fait un guéder? Pourquoi elle a fait une koumra? Ça, je veux bien toutes vos réponses. Ma question, c'est pourquoi celle-là?
Moukse.
Ma moukse. Alors, vous voulez mettre des barrières autour de l'arbre? Pourquoi elle a dit spécifiquement que vous n'allez pas toucher?
Parce qu'elle est sensible.
Mais même si c'est Adam qui lui a dit, ça ne règle pas le problème. Pourquoi Adam lui a dit? Il y a les amis. Non, il est temps de lever le voile. Bien sûr que Chava Imenu, ce qui est possible de mettre autrement, bien sûr que Chava Imenu a étudié la Gemara. Évidemment. Par où? De là, on apprend que les femmes étudient la Gemara. Chava Imenu a étudié la Gemara dans le Sefer Rosh Hashanah. Elle a appris. Quel était cet arbre? Quel était le fruit de cet arbre? Alors, ça, c'est une réponse de juif, ça. Ça, je te demande, qu'est-ce que c'est? Tu me dis Marloquet. Ça, on est sûr de ne pas se tromper, mais t'as raison en même temps. Hein. C'est, pour tout, c'est vrai. D'accord. Elle met ses Marloquet. Alors, on a un avis qui va nous dire que c'est Geffen. La vigne. Un avis qui va nous dire c'est la figue. Téna. Il y a un avis qui va nous dire le blé. Elle va nous dire le Midrash que le meilleur avis de tous, c'est le Etrog. Le Etrog. À Chafrava, elle a écouté la Gemara dans sa Rosh Hashanah, elle a appris que Etrog kashia leyada, que la main, c'est ce que je l'ai marqué dans la feuille, que la main fait peur, fait du mal, c'est pas à l'Etrog. Quand on touche un Etrog, c'est pas spirituel. D'abord, c'est concret. Quand on touche un Etrog, quand on n'arrête pas de le toucher, de le tripoter, ça le détériore. Eh oui! Vous avez déjà vu des gens choisir un étrog pour soukot? Comment est-ce qu'on choisit une pastèque au chouk? En tous les sens. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un choisir un étrog comme ça? Non! Le étrog, on le tient à peine et on le regarde avec une loupe. Qu'est-ce qu'on y cherche avec le loup? Alors on appelle ça, en langage yeshivatique, un bletlar. Le bletlar, c'est la tâche faite par une feuille ou le doigt qui va peut-être le rendre bakasher si on a trop. Et donc, Chava, elle dit comme ça. Elle dit, si on n'a pas encore le droit de le manger parce qu'on n'a pas mangé de Ezraïm, donc c'est pas l'ordre, si on ne peut pas encore le manger, eh bien, il ne faut pas le toucher. Parce que si on le touche, on va le détériorer. Adam n'a pas écouté, il a mangé. Betseder, c'était quel jour? C'était Rosh Hashanah. Donc maintenant qu'il a fait une erreur, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une erreur? On fait une tchouba. Combien de temps? La 7e tchouba. Et enfin, il est arrivé à Yom Kippour. Et vous savez ce qui s'est passé à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? Non, c'est vrai qu'on ne mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait? T'as raison, on mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour?
Le don de la Torah.
Quoi?
Le don de la Torah.
Dis-le plus fort. Le don de la Torah, Rotaï. C'est ça qu'on fait à Kippour. Eh oui, à Kippour, on fait le don de la Torah. Les premières, alors, Mamad Arsinaï, On n'a pas reçu la Torah. Dieu nous a dit coucou, mais on n'a rien reçu. Ensuite, il est monté pendant 40 jours, 40 nuits, Moshe, et il redescend avec les premières loufrotes le 17 Tammuz. Le veau d'or, boum, cassé. Après, il reprit pendant 40 jours, 40 nuits jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et ensuite, il remonte 40 jours, 40 nuits, il revient avec les deuxièmes loufrotes et la Torah à Yom Kippour. En d'autres termes, Yom Kippourim, c'est le moment où on a mangé Ephraim. On a reçu la Torah, donc on a mangé Ephraim. Maintenant qu'on a mangé Ephraim, eh bien, la première chose à faire, c'est d'enlever la Xéra des Rabbanites. Parce que Rava avait étudié Rabbi Moshe Feinstein et la Gemara, et donc elle sait très bien que Batlatam, Batla Xéra, que dans la mesure où la raison de l'interdit est annulée, ben on peut interdire, on peut annuler la Xéra. Et donc, la première mitzvah qu'on fait après Kippour, c'est Ulkartem Lachem Bri El Sadam. Vous devez prendre dans la main le Etrog à Sukkot. On enlève la xéra qu'on n'a plus le droit de toucher. Maintenant, on le touche. Mais est-ce qu'on le mange ? Non, pas encore. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu la Torah. C'est bien beau d'avoir reçu la Torah. Mais on ne l'a pas encore intégrée. On n'a pas encore véritablement intégré toute cette Torah. À partir de Sukkot, commence une période très particulière. Je vous rappelle qu'à l'époque, le peuple juif est à 98% agriculteur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Après Sukkot commence l'automne, la saison des pluies. Et donc ça veut dire que l'agriculteur, il est où ? Il n'est pas au champ. Donc s'il n'est pas au champ, où est-ce qu'il va ? À la yeshiva, il va étudier. Et donc il s'imprègne de Etz Chaim jusqu'à ce qu'il ressente que ça y est. Et à ce moment-là, nous dit le Talmud, alors ceux qui ont la feuille, vous pouvez prendre à un moment donné, je ne sais pas où je l'ai mis, il est dans la source numéro 11. Ma'aseh be'Rabbi Akiva sheniket etrog be'echad bishvat ve'na'al po shnei isurim echad k'divrei bet shamayim echad k'divrei bet hillel. Tu vois, on te dit Rabbi Akiva il a fait ça, et au final la Gemara va te dire que Rabbi Akiva il a pris un etrog à tout bishvat et il l'a mangé. À tout bishvat, on mange le etrog. Je ne sais pas d'ailleurs si dans les fruits prévus pour tout à l'heure il y a un etrog. Walou. On va pour l'année prochaine, on va encore rajouter. Où est-ce qu'on va les trouver ? C'est très simple. Dans tous les supermarchés, à l'approche de tout bichevat, il y a des produits, comme le barilla. Que ce soit la confiture, ou des produits mesucaris, ou des produits séchés, machin. Ils savent, ils ont compris le truc. Parce que les supermarchés ont étudié la cabane, évidemment.
Et au chou, il y a un magasin spécialisé dans
le... Ah, au chou, il y a un magasin spécialisé dans les frogs. Ce qui veut dire qu'à tout bishvat, on mange le etrog. À tout bishvat, on est metaken. Et traite Adam Arishon. C'est de cela qu'on parle. Tout bishvat, c'est la fête où on va corriger la faute d'Adam Arishon. Tout simplement, ni plus, ni moins. Maintenant, attendez. Tout bishvat. Nous, on a appris que tout bishvat, c'était quelque chose. D'où on sait, nous, notre idée de faire tout bichat. Qui a lancé le minhag de faire tout bichat ? Alors, exactement, dans la Mishnah, on nous parle de tout bichat comme étant un des Arba Rosh Hashanim. C'est Rosh Hashanah Laïla Not. Laïla, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi concrètement ? C'est l'anniversaire de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi la dîme ? Non, on commence à compter les années pour pouvoir venir. Oui ? Ok.
91, c'est 65.
Plus
et
26.
C'est-à-dire qu'il y a le
Yehoud
entre
Chambre et Chambre. Mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi c'était un tout bichevat. C'est quand même important. Vous avez raison, ce que vous dites, c'est totalement vrai. Je veux juste comprendre pourquoi c'est un tout bichevat. C'est une bonne question. Alors, le Talmud de Roucham, il va nous expliquer que la Toubishvat, c'est le moment où la sève commence à monter dans les vins. Sauf que, messieurs, dames, c'est bien gentil ça, mais je ne le vois pas. Je ne peux pas le voir. Or, d'après le judaïsme, je ne crée des choses, je ne décrète des choses qu'à partir du moment où c'est officiel. Tant que ce n'est pas officiel, ben ce n'est pas officiel. Et c'est la raison pour laquelle tout bishvat n'est pas une fête officielle. Pessah, c'est une fête officielle. Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula. Ben oui, évidemment que c'est la Géoula. En plus, dans l'année, ça tombe bien. C'est le début du printemps, le renouveau. Il y a Femeol. Pessah, c'est tellement évident que c'est le printemps, que c'est des Oraïda. Mais il y a des gens qui ressentent déjà Pessah. D'ailleurs, ma fille, ce matin, tout à l'heure, elle est revenue de l'école avec une décoration autour de Birkat Ha'ilanot. Elle a fait mode, dîner. Elle m'a amené Birkat Ha'ilanot. Elle était toute fière et seulement je lui ai dit, mais Birkat Ha'ilanot, c'est pas maintenant, c'est
en Nissan.
C'est en Nissan. C'est pas maintenant. Et la main. Il y a des gens, ben, où Pessah, je suis qu'à voir dehors. Je sors dehors, je vois les arbres en fleurs. Mais il y a des gens qui, déjà un mois avant, vont ressentir que... Non, avant, c'est un Ashkenaz, c'est maintenant. Dans un mois, deux mois, parce que c'est Shana Meuberet, il y a des gens qui, déjà un mois avant Pessah, vont se rendre compte que ça commence à arriver le printemps. Et donc, il y a des gens qui, à pourrir, arrivent déjà à entrevoir la Géoula.
Même maintenant, il y a des amandiers en fleurs.
Attends. Ça, c'est à pourrir.
Il y a des amandiers en fleurs.
Et il y a des gens qui déjà à Tou Bichvat, alors qu'on est en pleine saison des pluies. Rappelez-vous la semaine dernière. Mais il y a la Shkedia Porachat. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut donner une prophétie à Yechezkel à Navi, il lui dit, Ben Adam Ma'ata Roé. Il lui dit, Ma'kel Shaked Ani Roé. Et là, Dieu lui dit, Koyer. Et Taf Tanirot. T'as bien vu. Yirmiyahu, c'est vrai. Tu vois, Yechezkel? Pas pour moi. Mais pourquoi il lui a dit, Taf Tanirot? Ma et Taf Tanirot, quelqu'un? Hein? Ah, il l'a montré, donc c'est pas... Non, et t'as ta lirote que c'est un bâton, ça c'est sûr. Mais t'as vu que c'était un bâton d'amandier. Parce que choquait Dani Aldevaril à Chotan. Parce que je vais le faire rapidement, même quand ça se voit pas encore. Tou Bichvat, c'est pas encore le printemps. Tou Bichvat, c'est la pluie, c'est l'hiver. Celui qui va te dire en hiver que c'est le printemps... Nous, mais moi, tu me dis que c'est le printemps. Je suis obligé de mettre trois manteaux et deux, c'est le printemps. Ah ben, il y a des gens qui, derrière le manteau et l'écharpe, se rendent compte qu'en fait, on est en train d'arriver vers le printemps pour le peuple. Mais cette analogie de l'année, on peut la faire aussi avec la journée. Dans le judaïsme, à partir de quand commence la journée? Alors, le jour commence la veille, je ne parle pas la journée, c'est-à-dire le jour, ça commence quand? Anetzachama, c'est le lever du soleil. Mais il y a également une permission de commencer à faire les brachot, qu'on appelle birkot à shachar, quand? Mais alors, à shachar, c'est avant le lever du soleil, c'est lorsque la lumière commence à revenir. Seulement, d'après les Mekoubalim, quand est-ce qu'on va commencer à dire Bekot HaShachar? À Tikkun Chatzot. À partir de Chatzot Laila. C'est-à-dire en français, à partir du début de la fin de la nuit. Et oui, c'est quoi Chatzot Laila? C'est le milieu. Donc c'est-à-dire qu'après Chatzot, c'est le début de la fin de la nuit. Mais tu ne peux pas le dire officiellement, ça. Parce que ça ne se voit pas. Quand le soleil se lève, tout le monde le voit, c'est une évidence, c'est des oraïta. Quand la lumière revient, c'est aussi un peu évident, mais moins que quand le soleil est là. Donc ce n'est pas des oraïta, c'est des rabbanan. Pessah, c'est évident, c'est des oraïta. Pourim, c'est des rabbanan. C'est un peu moins évident. Tou Bichvat, c'est gamlo des oraïta, mais lo des rabbanan, c'est minhag. C'est minhag parce que tu ne peux pas l'officialiser. Celui qui se lève, à Tikkun Chatzot, et bien il se lève. Celui qui ne se lève pas, il ne se lève pas. Attention, il ne s'agit pas de mettre son réveil. Celui qui se lève parce qu'il ressent qu'il faut se lever à ce moment-là, alors il se lève. Celui qui s'est éveillé à cela, il se lèvera. Celui qui ne s'est pas éveillé à cela, il ne se lèvera pas. Il y a comme des scènes.
David Ameller.
Comme David Ameller, par exemple. Chatzot, là, il a un coup de la. Moi, je ne suis pas David. Donc tant que moi je ne me suis pas éveillé à cela, ben, ce n'est pas de mon niveau, le Seigneur. Donc Ishvat, je ne peux pas te l'imposer. Dès que tu voudras te l'imposer, alors tu te l'imposeras. Ça veut dire que tu seras arrivé au niveau. Ce qui est vrai au niveau de la journée, cette dimension de lever du soleil, la lumière et tout Bishvat, c'est-à-dire le début de la fin de la nuit, qui est vrai également au niveau de l'année, comme on a dit, Pessah, Purim, tout Bishvat, est vrai également au niveau de la Géoula. Il y a un moment où la Géoula, elle est Miprinat Netzachama. Il y a un moment donné où la Géoula, elle est levée du soleil. C'est le Yom HaTzmaout, le 14 mai 1948, voilà, ça y est, c'est terminé, c'est la Géoula, c'est officiel. Comment on sait que c'est officiel? Parce que la halakha nous a dit dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, le Rama a été posé que c'est la halakha, que Ein ben haolam hazeh leimot haMashiach, ela shi'abud malchuyot bilvad. Point. C'est tout. Point, c'est facile. Yom HaTzmaout, c'est clair. Mais il y a des gens qui, avant Yom HaTzmaout, avant que ce soit clair, ont quand même déjà ressenti que ça y est. Comme par exemple le Chafetz Chaim, lorsqu'il entend à la radio la déclaration Balfour, enfin, il l'entend pas, on n'a pas dit la déclaration Balfour à la radio, mais quand on entend parler de la déclaration Balfour, il dira à son fils, et c'est ce qui est reconstruit dans le livre Toltot Chafetz Chaim de son fils, que le Chafetz Chaim a dit Dos is dos, ce qui veut dire en bon français Zé ou Zé, ça y est. C'est ce que dirait également Rebbeir Simcha Kohen Mitzinsk, la Meshe Chokma. Lorsqu'il n'entendra pas la déclaration Balfour. Ça y est, la Géoula est en marche. Mais comment ça, la Géoula est en marche? C'est les Britanniques maintenant, les patrons. Et quoi? Et le livre blanc? Zé. Mais bon, vous pouvez quand même déjà un petit peu comprendre ça. J'étais ce Shabbat, prié, Netzach Hama, à la synagogue de la Khourouba. Et là-bas, c'était un Shabbat Khatan. Et lorsqu'on était à la fin de la synagogue, j'ai fait une petite visite de la synagogue avec la famille du Khatan. J'ai dit, vous savez ce qui s'est passé ici? Shabbat Nachamu 1917. Shabbat Nachamu. Nachamu, Nachamu, ami. Le Shabbat de toutes les Nechamot. En 1917, a été invité Sir Herbert Samuel. Et c'est lui qui a eu martyr. C'est lui qui a eu martyr. Il était le nouveau gouverneur de la Palestine par le biais des Anglais. Il était juif. Seulement, c'était qui le rabbin de cette synagogue à ce moment-là? C'est le Rav Kook. Et lorsqu'il va donner son Dvar Torah, eh bien, il va appuyer sur la bracha qu'on dit pour les Birkot Haftarah. Et il dira, en regardant bien dans les yeux, Sœur Herbert Samuel, Al Kisho Lo Yeshev Zav. Les choses soient bien claires. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est mieux que les Ottomans, mais les Anglais, c'est pas encore ça. Il y a des gens qui ont dit, mais on arrive déjà à voir la Géoula. Les Prinat pourri. Mais il y a des gens qui, alors qu'on était en plein sous la domination de l'Empire Ottoman, avec une corruption pas possible, avec une situation pour les Juifs exécrable, à la fin du 19e siècle, même avant Herzl, qui disent Zé ou Zé, Gand de Vilna, Baal Shem Tov, Chalutzim Atemanim, ils comprennent que Zé ou Zé. Mais comment ça, Zé ou Zé? Regarde dehors. C'est rien du tout, Géoula, t'as les Ottomans, c'est terrible, rien n'a changé. Non, Zé ou Zé. Corée Majou, je ne peux pas te l'expliquer. Parce que si je te l'explique, tu vas me dire n'importe quoi. Moi, je le ressens. C'est la raison pour laquelle tout Bishvat est une fête qui a été lancée en tant que fête à partir des Chassidés Ashkenaz au XIIIe siècle. Il a pris un essor beaucoup plus important avec les élèves du Arvidal. Mais c'était quand même extrêmement, extrêmement réduit. Finalement, c'était dans les Rougim, Metsumtsamim, des Mikouvalim. Ça a pris un essor énorme, déjà avec ce minhag fantastiquement absurde qu'on a tous appris par le pied du KKL, qu'on plante des arbres à Tubishvat. Est-ce que quelqu'un a déjà planté un arbre à Tubishvat?
Oui.
Zekef, hein? Hein, Zekef? c'est le pire moment de l'année pour planter un arbre. Les choses sont bien claires. Botaniquement parlant, c'est pas bon. Halakhiquement parlant, c'est pas tombe non plus. Rosh Hashanah, la Netiyot, c'est quand? Il y a Rosh Hashanah, la Netiyot. C'est quand le meilleur moment pour planter?
C'est
où? C'est en été. La fin de l'été. Il fait pas trop chaud, mais il fait pas encore les pluies. Bon, faut qu'un arbre fait le racine. Docteur Arav, docteur Zev Yavet, à Mikve Israël, il y a 130 ans, il décide que Yalla bonin tamashu. Où il a dit ça? Quoi, il savait pas que c'était pas le bon moment pour planter un arbre? C'est la dame qui savait. Alors vous savez pourquoi on a le miracle de planter des arbres d'Afka à Toubishvat alors que c'est pas le moment? Non, Rabotai. Mais c'est Toubishvat. Ça fait de la Emouna. Non. On a dit que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? La sève, elle monte, on a dit, mais c'est l'air. Mais ça, vous savez quoi? On n'a qu'à couper l'arbre pour le voir. On voit un rayon X de l'arbre, on le voit. Non, il se passe autre chose. Vous savez ce qui s'est passé à Toubishvat? Il y a une voix qui est sortie. Je ne sais pas encore où, mais elle est sortie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a entendu dire comme ça que Arbaim Yom Lifne Yetzirat Avalad, Batkol Yotzet Vomer Batploni Liploni. 40 jours avant quoi? Yetzirat Avalad. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, avant la création de l'enfant, il y a une voix qui sort et qui dit celle-là, il est pour celui-là. Ce bébé-là, c'est pour celui-là, non, non, non. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe 40 jours après Toubishvat? 40 jours après Toubishvat, c'est quoi? C'est pas Pessah. 40 jours, c'est pas pourri, ça, c'est 30 jours. 40 jours après Toubishvat, c'est Kafé et Adab. Kafé et Adab, c'est Briat Haolam. C'est Briat Haolam. Et oui, vous savez que le monde a été créé le 25 Elul. Parce qu'on dit que Rosh Hashanah, c'est Briat Adam. Et donc on dit en fait, non, mais ça c'était le sixième jour, donc en fait cinq jours avant. Kafé et Elul, c'est Briat Haolam. Oui, ça c'est l'Efishita Rabbi Eliezer. L'Efishita Rabbi Yoshua Benissan Nivra Haolam. Et la halakha, c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Donc Benissan Nivra Haolam. Et donc 40 jours avant, enfin Benissan Nivra Haolam, de Rosh Hashanah, c'est Adam en fait. Et donc ça veut dire que Kafé et Adam Nivra Haolam Behemet. Et que donc 40 jours avant Yetzirat Avalad, et c'est qui le balade? Aolam. 40 jours avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, à Toubishvat, il a dit, il les a oubliés. C'est quelque chose qui est tellement profond qu'on ne peut pas le dire officiellement. Mais donc, comme ce n'est pas officiel, c'est pas officiel. Là, on est très contents, on se réunit, c'est génial. Mais si quelqu'un décide de ne pas faire Toubishvat, ça ne fait aucune avéra. Il faut, pour que cette fête devienne une fête officielle, qu'elle soit accompagnée non pas de belles explications, mais de quoi? D'un fait. Alors, j'ai commencé à dire tout à l'heure qu'il y avait un minage de planter des arbres. Vous savez pourquoi est-ce que nous on plante des arbres? Donc, Dr. Arav Yavetz, il a dit parce que c'est bien d'Aola. Oui, mais alors, quel rapport? Mais quel rapport? C'est quoi la première chose que Akadosh Baruch Hu il a fait lorsqu'il a créé ce monde? Ben, il tape. Kadosh Baruch Hu gagne. Il a planté le Gan Eden. Résultat des courses, la première mitzvah que le peuple juif reçoit lorsqu'il rentre en Israël, c'est quoi? De planter des arbres. Arav Dr. Zev Yavetz, il dit donc la première chose qu'on fait à Toubishvat, c'est le moment où on se rencontre uniquement parlant. Uniquement parlant. À l'intérieur. On se rend compte que ce qu'on est venu faire ici, c'est de réaliser ce renouveau, cette Géoula, alors on plante des arbres. Même si ce n'est pas le bon moment au niveau botanique. Mais pour que cette fête devienne une véritable fête, eh bien, il va falloir qu'il y ait un événement. Un événement qui touche le peuple juif, qui soit suffisamment énorme pour que le grand rabbinat d'Israël décide, à partir de ce moment-là, on fait une fête. Et celui qui ne fait pas, ben, tant pis, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas eu, il y a eu. Ben, il y a eu. Il y a eu, mais pour l'instant, le rabbinat, il fait encore dodo, il n'a pas décidé d'en faire une fête. Mais il y a déjà eu un événement à Toubishvat qui aurait pu largement mériter que cette fête devienne officielle. La, cet événement est marqué ici dans le dernier, sur ma feuille, dans la dernière source. C'est la fin de la Hagdama du livre de Orod, écrit par donc, le Orod du Rafouk, mais la Hagdama est écrite par le Rav Tzvi Yehuda Kouk. Le Rav Tzvi Yehuda dit comme ça: Bezrat Hashem, Shefa, Kodesh HaKodashim, Shel Sefer HaOrod Hazeh, Sheofia Mitoch, Pachet HaOro, Shel HaKohen HaGadol, Adoni Avi Morizat, ורבי הרב זצ"ל בשנת תרפ"א עם ראשית בואו בדבר השם לחזרת שכנותו ומכוננות מלכותו לירושלימה, הנה חוזר ומופיע עתה בשנת הקטורת, תפוסה סלילה פוליסיון, אלא לא רב ציודן נדין, אלא רוב בניו. סוליד רולה אורות קום עם ראשית גילויה של רוממות ימין עליון לגאולת עמו ונחלתו וישועת משיבו. זה מי שתאמין פרסת פרז. לא רב צבי יהודן נדין, que Shnat HaKtoret, la deuxième année où va réapparaître le livre Orot, c'est une année qui s'appelle, je le traduis en français, le début du dévoilement de la grandeur de la droite évidente de la Géoula du peuple de Dieu, de sa terre et de son Mashiach. Tout ça, ça se passe Shnat HaKtoret. Et Shnat HaKtoret en français, c'est 1949. Mes amis, en 1949, à Tu Bishvat, la Knesset est passée à Jérusalem. Elle était à Tel Aviv pendant les combats, pendant la guerre d'indépendance. À Tu Bishvat 1949, le Parlement israélien, c'est-à-dire le dévoilement de la résurrection nationale d'Israël, est revenu dans sa capitale éternelle à Jérusalem. C'est déjà un événement qui s'est passé à Tu Bishvat. Pour l'instant, le rabbinat n'a pas encore décidé d'en faire une fête. Donc peut-être que, si ce n'est pas ce soir, peut-être demain, et sinon l'année prochaine, il se passera très certainement quelque chose qui justifiera que Tu Bishvat ne soit plus un minhag, mais devienne une fête Kodesh Kodashim pour le peuple juif tout entier. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter maintenant bon appétit. Bon manger.
Attends, attends, attends.
On va faire les brachot, bien sûr. Oui.
Donc vous avez entendu, je rappelle que le Rav Fizon nous donne des cours tous les mardis sur la parachète à Chagoua.